Bonjour, à Tire-d'aile, l'émission de la LEPO Aveyron, présentée par Jean-Claude Issaly, administrateur et bénévole. Au sommaire aujourd'hui, nous allons découvrir un oiseau migrateur qui survole notre contrée ces jours-ci. Il en est passé pas mal, c'est la grue cendrée. Avec le refroidissement qu'il y a eu sur l'Europe, les oiseaux qui étaient en station un petit peu plus au nord, et notamment en Allemagne, sont descendus et on a pu les entendre ou éventuellement les voir passer. Ensuite, on traitera des actions que l'on peut conduire pour les oiseaux ces temps-ci. Et enfin, on reviendra sur les animations de cette fin d'année. Après ce chant d'alouette des champs, je vous présente la grue. La grue cendrée, c'est le plus grand échassier d'Europe. Quand on dit échassier, on entend de suite longue patte, haut sur patte. Effectivement, la grue cendrée est un échassier qui ressemble, je dirais, un peu en silhouette à la cigogne blanche. Et donc un oiseau de grande taille, d'autant plus qu'il a un long cou, donc haut sur patte. La grue cendrée, elle peut mesurer 1,10 m à 1,30 m de hauteur, donc c'est quand même relativement imposant. Quand on a la chance d'en voir de près, c'est assez impressionnant. Son envergure est pas mal aussi, puisqu'elle fait au moins 2 mètres d'envergure quand elle tend bien ses ailes. Et les plus grands individus, les mâles notamment, peuvent arriver à 2,30 m. Pour un poids de 4 à 6 kg, et bon, on a quelques exceptions qui peuvent monter jusqu'à 7 kg. Donc c'est quand même des oiseaux d'un certain acabit. Voilà, comme son nom l'indique, grue cendrée, ça veut dire que la couleur principale de l'oiseau est le gris. Donc le gris domine bien. Quand elle est posée au sol, en fait, on voit que sa queue noire, on voit que sa tête est un petit peu plus multicolore, mais l'ensemble du corps est gris. Si elle ouvre les ailes, on se rend compte à ce moment-là que les rémiges primaires et secondaires, donc les grandes plumes des ailes, sont quand même un petit peu plus sombres. La queue est particulière parce que la queue, elle peut se mettre en panache, c'est-à-dire qu'elles peuvent la redresser un petit peu, mais les plumes sont retombantes. Ce qui fait que ça lui donne une silhouette très caractéristique, quoi. Voilà, avec ses plumes qui pendent à l'arrière. Pour revenir sur la tête et le cou, la gorge et la partie avant du cou est noire, jusqu'au départ du jabot à peu près, après c'est gris. Et l'arrière du cou est blanc. Pour la tête, le front, donc au-dessus du bec, est noir. Ensuite, il y a une casquette rouge et puis il y a une marque noire sur la nuque qui part un peu vers l'arrière et qui disparaît un petit peu plus bas. La particularité de la casquette rouge, en fait, c'est que c'est de la peau. C'est une peau très rouge et cette peau, elle devient encore plus rouge au moment des parades nuptiales. Voilà, mais on reconnaît effectivement les oiseaux adultes à cette tête noire, blanche et rouge. Parce que les jeunes de l'année, sur le premier hiver, ont la tête brun clair, légèrement marron-orangé un peu. Voilà, on les distingue assez facilement des adultes. C'est un oiseau omnivore, c'est-à-dire qu'il mange de tout. L'hiver, il est plutôt sur des végétaux, mais par contre, le printemps et l'été, il consomme pas mal d'insectes, de batraciens, voire de mulots et autres campagnols. C'est un oiseau qui vit en couple et un couple uni pour la vie et qui niche en solitaire. Alors c'est vrai que quand on parle des grues cendrées, on voit des groupes passer, mais ça c'est leur période grégaire, leur période sociable, où ils se réunissent en grand groupe. Mais pour la nidification, les couples sont solitaires. Il fréquente les zones humides, semi-boisées, voire bien boisées, mais il faut toujours qu'il y ait de l'eau au sol. Voilà. Et c'est un oiseau qui niche au sol. Sa répartition, donc pour la grue cendrée, c'est nord de l'Europe et nord de l'Asie. Bon, elle n'est pas présente tout à fait dans la partie orientale de l'Asie, mais bon, c'est sur une très grande partie. Autrefois, notamment au Moyen-Âge, elle nichait en France dans toutes les grandes zones humides. Les zones humides qui ont été drainées ou qui ont disparu enfin, par des plantations. Mais je pense notamment à la grande forêt des Landes, hein, département des Landes et de la Gironde, où au XIXe siècle, il y a énormément de canaux qui ont été mis en place, qui ont été creusés pour tirer l'eau. Et puis, il y a eu les plantations des pins qui ont asséché des grandes parties. Et donc, petit à petit, les crues cendrées ont disparu. Bon, elles nichaient aussi dans d'autres zones, dans le nord de la France notamment. Mais voilà, petit à petit, elles ont disparu. Pour la nidification, donc une des particularités des grues cendrées, c'est qu'elles sont extrêmement loquaces, elles font beaucoup de bruit, elles ont vraiment des capacités, j'allais dire, musicales assez impressionnantes, et une variété dans les cris, dans les chants. Et c'est ce qu'on entend à cette époque-là, c'est différent des cris de la migration. Donc si on écoute un peu le chant au moment de la période nuptiale, c'est un petit peu ça. Alors la particularité aussi de la parade nuptiale, c'est que ce sont des oiseaux extrêmement gracieux, donc qui font des parades relativement évoluées avec des danses. Et on a souvent vu des reportages sur les danses des grues cendrées, dont les deux individus se suivent. En plus, ils ont une démarche extrêmement élégante. Ils relèvent toujours la patte vers l'avant avant de la poser, donc ça leur donne une allure vraiment très cérémonieuse en quelque sorte. Et donc les deux individus se suivent, émettent ce genre de cris, font des sauts, ouvrent les ailes, et souvent ils ramassent un petit élément au sol, un bout de bois, une touffe de mousse, etc. Ils jettent ça en l'air, et ils font énormément de courbettes, ils se redressent l'un face à l'autre. Voilà, c'est extrêmement beau à voir. Le couple revient sur son territoire relativement tôt. Hein. Donc, je disais dans la répartition tout à l'heure qu'il nichait dans le nord de l'Europe, surtout. Alors, c'est vrai qu'à partir de l'Allemagne, la Pologne, les pays baltes, et bien sûr tous les pays scandinaves, et puis bien sûr la Russie, on a énormément de couples qui sont répartis sur des très grandes zones. Et à ce moment-là, ils deviennent très territoriaux. Et je dirais, les meilleures densités, c'est un couple tous les 2-3 km dans les secteurs qui leur sont favorables. Donc les tourbières, les marais, les forêts inondées, la forêt boréale. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une présence d'eau. C'est quelque chose, c'est un élément qui les rassure et bon, c'est leur milieu. Donc, elles construisent un nid au sol. Alors, ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que les oiseaux ne sont adultes qu'à l'âge de 4 ans au mieux. C'est-à-dire que souvent, quand la première reproduction, elle a lieu quand les oiseaux ont 4, 5 ou 6 ans. Donc, c'est pas comme les mésanges. Ça ne va pas aussi vite au niveau de la reproduction. Donc, nid au sol, avec beaucoup de végétaux, un gros nid qui fait souvent plus d'un mètre de large, 30-40 cm de hauteur. Des fois bien à la vue, mais sur un îlot ou au milieu de l'eau, mais bien sûr dans des parties qui ne sont pas très profondes. Donc les oiseaux pondent un ou deux œufs, hein, jamais plus. Donc il y a une incubation de 4 semaines. Les deux oiseaux adultes se relaient pour couver. Et puis à la naissance des jeunes, hein, alors les deux œufs sont pondus très, très rapprochés l'un de l'autre, hein, en gros un jour d'intervalle. Et les oiseaux couvent dès la ponte du premier œuf. Il y a donc un petit écart, s'il y a de jeunes qui naissent, il y a un petit écart, mais il est très très faible, il se voit pas, quoi, comparé à d'autres oiseaux où les écarts peuvent être beaucoup plus grands. Et les jeunes sont nidifuges, ça veut dire qu'ils quittent le nid dès leur naissance, et ils suivent les adultes, et ils ont déjà pas mal d'autonomie. Ils se déplacent très très bien dès leur naissance, ils peuvent suivre les adultes, même sur l'eau, ils suivent. ils prendront leur envol qu'à l'âge de 2 mois environ. Et ils vont rester avec leurs parents jusqu'à la fin de l'hiver, c'est-à-dire qu'ils vont partir en migration avec leurs parents. Voilà pour la reproduction. Nous allons venir maintenant sur la migration. Donc les oiseaux, après leur reproduction et pendant tout l'été, donc les jeunes grandissent, grossissent, et puis à partir de septembre, les oiseaux, dans leur zone de nidification, commencent à se rassembler, à se retrouver avec plusieurs couples, à aller glaner dans les zones de nourrissage à plusieurs. Et puis, dès septembre, certaines commencent à descendre un petit peu vers le sud. Et on a notamment de très gros rassemblements sur l'île de Rügen, au nord de l'Allemagne. Des rassemblements où on peut compter jusqu'à 25 000, 30 000 grues. Donc là, il y a des îles, des îlots, et elles peuvent aller se nourrir dans les champs qui sont un petit peu plus au sud, sur le continent. Elles peuvent faire pas mal de kilomètres pour aller se nourrir. Bon, il faut dire qu'elles volent très très bien, et qu'elles ne se fatiguent pas en volant, même si elles pratiquent le vol battu. Mais elles peuvent aller se nourrir à 5, 10, 15 kilomètres des endroits où elles se rassemblent et où elles se trouvent leur quiétude, c'est les endroits aussi où elles vont dormir. Donc pour dormir, normalement elles se mettent sur des îlots ou sur des dans l'eau, bien sûr à des zones où elles ont pied. Et ça leur permet de se protéger des prédateurs, notamment. Voilà, donc là, elles peuvent rester sur l'île de Rügen et les environs. On parle de l'île de Rügen parce que c'est l'endroit où il y en a le plus, mais il y en a un petit peu partout dans le nord de l'Allemagne ou le sud de la Scandinavie. Elles ont commencé à fuir les premiers froids, mais sans plus. Et puis là, à un moment donné, on dit qu'elles sentent vraiment le mauvais temps arriver avec 2 ou 3 jours d'avance. D'un coup, en quelques heures, des milliers de grues peuvent partir. Et en 2-3 jours, on peut avoir 90% des effectifs qui ont quitté Rügen et les environs pour descendre plus vers le sud. Alors chez nous, en France, elles ont pas mal de lieux où elles peuvent faire étape. On a le nord de la France, globalement, les grands champs, etc. Mais les zones les plus fréquentées, la Lorraine, les lacs de Champagne, les lacs du Der, le lac du Der, Chantecoq. Là, on en a même qui passent l'hiver maintenant. Avec le réchauffement climatique, on se rend compte qu'on a de plus en plus de grues qui restent en France et qui restent même sur des parties assez septentrionales. Plus bas, bien sûr, les grandes zones d'hivernage, c'est les Landes. La réserve d'Arjusanx, les Barthes de la Dour, le Marais d'Orx. Mais même plus haut, un petit peu, sur le bassin d'Arcachon, on en a pas mal aussi qui hivernent dans ces zones-là. On en a aussi dans la région Occitanie, au lac de Puy-d'Arieux, dans les Hautes-Pyrénées. Il y a toujours quelques dizaines, voire quelques centaines d'oiseaux qui s'y arrêtent et qui peuvent y rester. Et on a aussi, depuis une bonne dizaine d'années, un hivernage un peu plus marqué aussi en Camargue. Alors, la migration, la route de migration, en gros, c'est du nord-est vers le sud-ouest. Et on a un faisceau de 100 à 150 km de large, en gros, de l'Alsace au Pays Basque. C'est là que passe l'essentiel des grues qui descendent vers le sud. Je dirais autrefois, la grosse zone d'hivernage, c'était l'Espagne, avec ses régions autonomes, l'Extrémadour et l'Andalousie. Et puis un petit peu le nord du Maroc, le nord de l'Afrique, où on a des zones aussi où il y a de l'hivernage des grues cendrées. En Espagne, donc les grosses zones, c'est l'Extrémadour, l'Andalousie, mais on a aussi des zones juste au sud des Pyrénées. Hein. On a des beaux rassemblements au lac de la Sotonera. On a aussi de gros hivernages, plusieurs milliers qui hivernent sur la lagune de Gallocanta, donc un petit peu plus au sud, mais c'est quand même la partie centre-nord de l'Espagne. Là-bas, pendant l'hiver, elles se nourrissent des glands au niveau des chênes verts, des chênes lièges. En Extrémadure et Andalousie, elles se tiennent dans ce qu'on appelle des essas, c'est-à-dire ces zones en prairie, mais qui sont quand même arborées de façon relativement claire. Leur vol est un petit peu particulier parce que ce sont des oiseaux qui ne sont pas des planeurs comme les cigognes. Hein. C'est-à-dire qu'elles font du vol battu, ça veut dire qu'elles peuvent passer par-dessus les mers. Si celles qui migrent vers, l'Afrique de l'Ouest, enfin le nord de l'Afrique de l'Ouest, elles peuvent traverser la Méditerranée sans problème, ce que ne peuvent pas faire les cigognes, parce que les cigognes sont des planeurs. Donc elles utilisent les courants ascendants uniquement pour prendre de la hauteur, et puis elles partent en planer jusqu'à au courant ascendant suivant. Les grues, elles, avec leur vol battu, peuvent donc passer au niveau des grandes parties en eau, sur lesquelles il n'y a pas d'ascendance thermique. Elles volent elles volent le cou tendu et les pattes tendues. Alors, ce dont on s'est rendu compte aussi, c'est que elles peuvent parfois replier les pattes, mais en fait, il faut qu'il y ait des températures extrêmement froides. C'est-à-dire, si la température descend au-dessous de moins 10 degrés, bon, ce qui peut arriver quand même, parce qu'elles peuvent voler très haut, hein, donc à plusieurs centaines, voire des fois à 2000, 3000 mètres d'altitude. De toute façon, les grues qui nichent dans la partie orientale de la Russie, il y en a qui passent par-dessus l'Himalaya. Donc c'est pour dire qu'elles peuvent monter très haut et qu'à ce moment-là, elles rencontrent des températures très froides. Et à ce moment-là, elles volent les pattes repliées, ce qui leur donne une allure un petit peu différente de celle qu'on a l'habitude de voir chez nous. Donc pattes tendues, cou tendu, c'est vrai que ça ressemble un peu à des cigognes, mais elles volent en formation, c'est-à-dire qu'elles forment des V ou des traits, ou voire des W si elles sont très très nombreuses. Et il y a un oiseau qui est en tête. C'est un petit peu comme dans le cyclisme, les oiseaux de tête se relaient en fait, parce que c'est eux qui prennent le plus de vent. Et en volant en formation, un très léger décalé, les oiseaux qui suivent profitent des turbulences créées et qui leur facilitent le vol et qui les épuisent un petit peu moins. Voilà. En halte d'hivernage, bon, on peut avoir de très très grands groupes, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers. Nous, quand on les voit passer, souvent, surtout chez nous, on est un petit peu, que ce soit sur la partie est du Lot ou l'Aveyron, on a quand même des groupes un peu plus réduits, mais parfois, il arrive qu'on en voit 200 ou 300 ou 400 passer. Voilà. Mais après, quand elles sont en hivernage, donc elles sont un petit groupe et elles passent, elles vont dans les champs aux alentours et elles partent chacune de leur côté, groupe par groupe, un petit peu de leur côté. Elles sont toujours en alerte, c'est-à-dire qu'il y en a, quand elles se nourrissent, il y en a toujours quelques-unes qui sont bien redressées et qui observent. C'est leur façon de surveiller un petit peu les groupes. Et donc ça, elles le font vraiment à tour de rôle. Et elles sont relativement efficaces pour éviter les prédateurs et fuir dès les premiers dérangements. Il faut dire aussi que dans leur zone de nidification, elles sont dans des zones où il y a beaucoup d'herbes, de marécages, d'arbrisseaux, de petits arbustes. Et donc, comme elles sont quand même relativement grandes, le tête redressée, je dirais, c'est un petit peu des périscopes au-dessus de la taïga, quoi. Voilà, leurs ennemis, donc, il y a le renard, c'est le premier, mais bon, elles arrivent à le faire fuir, le renard. Si elles le voient arriver, elles ont quand même un bec assez pointu, en forme de poignard, et un couple de grues peut faire fuir le renard. Par contre, il y a un ennemi qui est plus rare, mais qui est très efficace, c'est le glouton. C'est un genre de mustélidé, en gros comme un gros blaireau, mais brun. Lui, par contre, il ne les craint pas, et il peut manger les œufs, les jeunes, etc. Voilà, mais dans les zones où... je dirais où il y a quand même une activité humaine, c'est l'homme qui est le plus dérangeant. Il y a beaucoup d'échecs, je vois sur le nord de l'Allemagne ou en Pologne, au Pays Baltes, il y a beaucoup d'échecs qui sont dus au dérangement humain. Bon, c'est pas que les gens veuillent le déranger volontairement, mais bon, on se balade de plus en plus, on va de plus en plus dans les zones sauvages, et là, il y a beaucoup d'abandon et beaucoup d'échecs. Mais bon, globalement, la population est en train de se reconstituer. On a même maintenant quelques couples qui nichent dans le nord de la France. Bon, ça compte sur les doigts d'une main, mais il y en a quand même quelques-uns. Ce que je pourrais rajouter, c'est qu'il n'y a pas que la grue cendrée dans le monde. Il y a 15 espèces de grues. Alors, il y a des grues qui sont très connues, comme la grue du Canada ou la grue du Japon, voilà, qui est encore un petit peu plus grande que notre grue cendrée. Voilà pour ce tour d'horizon sur la grue cendrée et les grues en général. Que peut-on faire pour les oiseaux actuellement ? Bien sûr, les nourrir. Donc je vous recommande d'écouter en podcast l'émission que j'ai déjà faite sur le nourrissage. On peut nettoyer les nichoirs, on peut installer de nouveaux nichoirs. Au niveau des animations, il ne nous reste plus pour cette fin d'année que l'animation du samedi 18 décembre, l'atelier construction de nichoirs et mangeoires à Savignac. Donc pour plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur le site de la LPO Aveyron ou appeler la LPO Aveyron pour que vous puissiez avoir les contacts nécessaires. Je vous remercie, ainsi se termine cette émission et je vous dis à la prochaine fois.